Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 22 juillet 2024. Voici le sommaire. Le président Joe Biden renonce à briguer un deuxième mandat à un mois de la convention démocrate qui devait l'investir comme candidat à la présidentielle du 5 novembre 2024.
C'était devenu inéluctable. Même Obama avait demandé à ce qu'il renonce et d'autres poids lourds du Parti démocrate, les Nancy Pelosi et autres.
L'analyse du professeur Mohamed Mbodj à suivre dans le journal. Un choc pour certains, un soulagement pour d'autres. La décision du président Biden suscite des réactions autant chez les démocrates que chez les républicains et au-delà des frontières des États-Unis.
Cette décision est salutaire et montre vraiment que les États-Unis sont un modèle à suivre par les pays africains.
C'est pas la même chose en Afrique. Il faut plutôt d'agir pour avoir un pouvoir assez sage. Par contre, en Europe,
le dossier complet de la rédaction sur cette actualité, c'est dès le début de cette édition. Dans une dizaine de minutes, les sports présentés par Élisée Oumpatine. Mais pour commencer, voici le journal. Le président Joe Biden a annoncé hier soir qu'il ne briguerait pas en second mandat et qu'il soutenait la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidate du Parti démocrate au scrutin du 5 novembre 2024. Le point avec Passy Widahuskara, le chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche. Le récit est de Gaby Dorsil.
Après avoir résisté pendant des semaines aux questions sur son acuité mentale et insisté sur le fait qu'il resterait dans la course, le président Joe Biden a annoncé qu'il mettait fin à sa campagne et qu'il ne se représenterait pas aux élections du 5 novembre. « Ce fut le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que votre président », a-t-il annoncé sur les médias sociaux peu avant 14 heures, heure locale, dimanche. Bien que Biden ait eu l'intention de se représenter, il estime, dit-il, qu'il est dans le meilleur intérêt de son parti et du pays de se retirer et de se concentrer uniquement sur l'accomplissement de ses devoirs en tant que président des États-Unis jusqu'à la fin de son mandat. Il a remercié la vice-présidente Kamala Harris pour avoir été une partenaire extraordinaire. Dans un autre message sur les réseaux sociaux, il a offert son soutien et son appui total à Mme Harris pour qu'elle devienne la candidate du parti. Hélène Camark, de la Brookings Institution, est l'auteur d'un livre sur la manière dont les États-Unis désignent les candidats à la présidence. Nous l'avons jointe via Skype.
Politiquement, ce serait significatif, car ces délégués soutiennent Joe Biden. Ils l'écouteront certainement, mais il ne peut pas automatiquement transférer ses délégués à Harris ou à n'importe qui d'autre, d'ailleurs.
La quasi-totalité des 3896 délégués qui se réuniront le mois prochain lors de la convention nationale du Parti démocrate à Chicago, dans l'Illinois, se sont engagés à voter pour Biden, qui a remporté les élections primaires dans tout le pays. Mais selon les règles du DNC, le Comité national démocrate, ces promesses peuvent être modifiées. Les appels à ce que Joe Biden passe le flambeau se sont multipliés ces derniers jours, y compris de la part de législateurs démocrates de premier plan. 58% des démocrates pensent que la vice-présidente Kamala Harris ferait une bonne présidente, selon un nouveau sondage AP Nork. Dans l'ensemble, 30% des Américains partagent cette opinion. Si les démocrates décident que Kamala Harris doit être à la tête du ticket, ils devront également choisir son colistier. Quant à Joe Biden, il a déclaré qu'il s'adresserait au public américain plus tard dans la semaine pour donner des détails sur sa décision. Donald Trump, lui, officiellement désigné jeudi par les républicains comme leur candidat à la présidence, a publié cette déclaration sur les médias sociaux. Joe Biden, l'escroc, n'était pas apte à se présenter à la présidence et n'est certainement pas apte à servir. Fin de citation.
Dans le camp démocrate comme chez les républicains, les réactions à la sortie de Biden de la course ne se sont pas fait attendre. Dans l'opinion, c'est un choc pour certains, un soulagement pour d'autres. Voici un échantillon des premières réactions recueillies par Abdourahmane Dia.
La vice-présidente Kamala Harris déclare compter remporter l'investiture démocrate pour la présidentielle de novembre en vue de battre Donald Trump après l'annonce du retrait de Joe Biden. Elle salue l'acte désintéressé et patriotique du président démocrate de 81 ans qui a annoncé la soutenir comme candidate. « Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour unir le Parti démocrate et unir notre nation pour battre Donald Trump », écrit-elle. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants et figure majeure du Parti démocrate, Nancy Pelosi, salue via un message publié sur X la décision de Joe Biden de renoncer à se présenter pour un deuxième mandat. Le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, abonde dans le même sens. Chez les observateurs ordinaires, par exemple, ces personnes rencontrées à New York, la vie est partagée.
Je pense que Biden l'a bien cherché. Sa prestation a été un fiasco. Je pense que cela a rendu les gens très nerveux à l'idée de le voir se lancer dans la course à la présidence face à Donald Trump, qui est pourtant également un homme âgé.
Pour l'analyste Keith Nagan, spécialiste des élections américaines, c'est une situation potentiellement compliquée pour les démocrates.
C'est une grande victoire pour l'ancien président Trump et 20 de son coulissier, parce qu'ils viennent de passer la semaine dernière à consolider, à unifier leur base et leur parti, et à établir la ligne de démarcation sur les principaux sujets, qu'il s'agisse de l'inflation, de la sécurité nationale, du maintien de la force et de la sécurité de la population. Et où en est l'autre camp? Ils n'auront pas beaucoup de temps pour se présenter, pour faire passer des messages clairs aux électeurs qui voteront 4 semaines plus tard.
Entre-temps, les démocrates attendent et les républicains sont déjà à l'attaque contre Kamala Harris.
Pour de nombreux analystes, la décision de Joe Biden de renoncer à sa candidature était devenue inévitable, même si son équipe annonçait samedi qu'il reprendrait bientôt sa campagne. Comment comprendre cette décision et quelles pourraient en être les conséquences? Écoutez l'analyse de Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York. Il a été joint par Abdourahmane Dia.
C'était devenu inéluctable, en fait, lorsque les gens ont dit que même Obama avait demandé à ce qu'il renonce et que Obama lui-même n'a pas contredit cette rumeur, ce qui semble l'avoir confirmé. Et d'autres poids lourds du Parti démocrate, les Nancy Pelosi et autres. Alors, le problème de Biden, non seulement c'est ce qu'on a vu sur la télé et qui parle de lui-même, mais c'est aussi cette sorte de vide ou qui laisse la place à Trump pour développer sa stratégie. Et la seule fois où on parle de Biden, c'est pour s'interroger sur son futur, sur ses capacités. Et je pense qu'il a fait peut-être ce qu'il fallait faire et à ce moment-là, tourner un peu l'attention sur le futur.
Alors, pour vous, qu'est-ce qui a été déterminant? Sa famille ou des personnalités influentes du Parti démocrate comme Nancy Pelosi ou Barack Obama?
Je suis convaincu que ce sont les poids lourds. Hein. Vous savez, les familles, quelquefois, elles ont un attachement un peu irréel par rapport à leurs proches. Donc, et les familles croient aux miracles, etc.
Alors, on est à quelques semaines, à un mois de la convention démocrate. Kamala Harris risque-t-elle d'être défiée par d'autres potentiels candidats ou a-t-elle plutôt un boulevard avec le soutien du président?
Je crois qu'il y aura toujours des candidats à ce moment-ci. C'est une fenêtre qui s'ouvre, certainement pour prendre date, pour se faire connaître par quelqu'un ou peut-être par deux personnes. Mais je ne pense pas qu'un autre poids lourd comme Gavin Newsom, par exemple, ou Gretchen Whitmer, ils vont se présenter dans ce mois-ci, donc d'ici la convention, pour essayer de retourner, disons, la décision. Ça me paraît difficile, d'autant plus que les délégués se sont engagés pour Biden et que Biden lui-même a choisi c'est délégué pour cette convention. Et donc, certainement, la majorité, la plupart vont lui obéir.
On est à 3 mois de la présidentielle. Est-ce que Kamala Harris et les démocrates ont assez de temps? Donald Trump a un peu le momentum, si on peut le dire ainsi.
Oui, c'est sûr qu'il y a un momentum qui se dessine. Mais ce momentum, c'est que justement, c'est parce que Biden ne fout pas le devant de la scène.
C'était le professeur Mohamed Mbodj du Manhattanville College de New York. De la Russie à Israël, en passant par le Canada et la France, les réactions internationales au retrait de la candidature du président Biden ont commencé à affluer dès dimanche soir. Firmin Koyaweda fait le point.
Les élections sont dans 4 mois. C'est une longue période pendant laquelle beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons être attentifs, suivre ce qui va se passer, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, au média Life.ru. En Israël, le président Isaac Herzog a remercié son homologue américain pour son soutien inébranlable au peuple israélien. Le président Volodymyr Zelensky a remercié Joe Biden pour les mesures courageuses qu'il a prises pour soutenir l'Ukraine. Ardent défenseur de la démocratie et de la stabilité du monde, il parachève ce soir son œuvre politique avec courage et sagesse, a salué sur X la présidente de l'Assemblée nationale de France, Yael Braun-Pivet. À Berlin, le chancelier Olaf Scholz a salué une décision qui mérite le respect. Le premier ministre britannique Keir Starmer a dit respecter la décision du président américain. « Je connais le président Joe Biden depuis des années. C'est un grand homme et tout ce qu'il fait est guidé par l'amour qu'il porte à son pays », a écrit le premier ministre canadien Justin Trudeau sur X.
Au Cameroun aussi, la décision du président Biden ne passe pas inaperçue. Dans ce pays dirigé depuis 42 ans par le président Paul Biya, âgé de 91 ans, les citoyens se sentent évidemment interpellés. Écoutons ces réactions recueillies par notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Je crois que c'est une décision qui est humaine. Parce qu'il n'a pas regardé à son intérêt. Il pense qu'il a fait ça pour l'intérêt des Américains. Il comprend qu'il ne peut plus tenir longtemps. Même s'il est réélu, il ne tiendra pas longtemps. Donc, il est honnête. Donc ça, c'est ma pensée. Quand on est fatigué, on a déjà beaucoup travaillé, alors on va devenir, sans le savoir, laxiste. Sans le savoir.
Ouais, moi, je pense que c'est bien. Il a vu que c'est mieux pour lui. Plus il vit son âge, il ne parvient plus à faire la différence des choses. Donc mieux, on donne à celui qui peut assumer. Moi, je vois que c'est mieux.
C'est une bonne décision parce que vu que son âge est avancé et au fur et à mesure que le temps passe, on perd des facultés en tant qu'être humain. Donc, étant vieux, si lui pensait qu'il pouvait vraiment toujours tenir et se présenter pour être président, son âge, en fait, son état ne permet pas. C'est-à-dire que le président nécessite beaucoup de travail, beaucoup aussi intellectuel. Donc, si tu as encore ces facultés-là, tu peux.
Il fait bien de prendre rapidement cette décision vu déjà son âge assez avancé. Mais dis donc pas que il est préférable de quitter la scène avant que la scène ne nous quitte. Donc c'est vrai, c'est 81 ans, mais c'est l'âge de la sagesse. C'est possible de diriger un pays, mais pour des raisons de santé, et je pense qu'il devrait privilégier sa santé avant tout. Bon, c'est vrai que l'exemple de Biden est à saluer. Seulement moi, en ce qui concerne ma conception des choses, c'est pas la même chose, parce qu'en Afrique, ils ont une autre manière de concevoir la chose. Parce qu'en Afrique, on se dit c'est quand on est vieux qu'on peut mieux diriger les choses. Par contre, en Europe, ce n'est pas ça. En Europe, il faut encore 100 pour un pouvoir 100. Pourtant, en Afrique, il faut quelqu'un d'âgé pour avoir un pouvoir assez sage, pour avoir celui-là qui peut franchement diriger les problèmes du pays et tout. Donc, pour moi, c'est ça.
Je crois personnellement que le président Joe Biden a pris une bonne décision en ce qui concerne sa renonciation à la candidature au poste de président de la République des États-Unis. Et cette solution, ou alors cette décision, est salutaire et montre vraiment que les États-Unis sont un modèle à suivre par les pays africains.
Réaction recueillie à Yaoundé par notre correspondant Emmanuel Juntap. Et voilà pour le dossier de la rédaction consacré à la décision du président Biden de renoncer à briguer un deuxième mandat. À présent, l'actualité sportive, c'est avec Élisée Ongpatine. Salut Élisée.
Bonjour Mouhamadou et bonjour à tous.
Jeux olympiques, le coup d'envoi c'est dans 4 jours, mais en attendant, les équipes qualifiées font leur dernier réglage.
Oui, notamment les 2 représentants africains au basketball, le Soudan du Sud et le Nigeria. Et pour le dernier match de préparation, les Black Stars soudanais ont été battus in extremis 101-100 par la plus grande nation de ce sport, les États-Unis. Les Américains, qu'ils retrouveront d'ailleurs lors de leur deuxième match au JO. Défaite également des 10 Tigresses qui n'ont pu rien faire devant la Serbie, score 70-62. À Paris, les Nigérianes joueront l'Australie, le Canada et la France. Les Sud-Soudanais, eux, affronteront Porto Rico, les États-Unis et la Serbie.
En athlétisme, la piste de Londres servait aussi de préparation pour les Jeux à travers le meeting de la Ligue de Diamants.
Une dernière mise à niveau avant les JO et sur les 100 mètres. Le Sud-Africain Ankani Simbine termine deuxième derrière le champion du monde, l'Américain Noah Lyles. Le Botswanais Letsile Tebogo a fini troisième en battant son record personnel tout en réalisant un record national avec un chrono de 9 secondes 88 centièmes. Et puis, sur les 3000 mètres, le Kenyan Edwin Koigit finit à la troisième place.
Football à présent, la prochaine Super Coupe de la CAF aura lieu en septembre à Riyad, en Arabie Saoudite.
C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football dans un communiqué sans pour autant préciser le nom du stade et l'heure de la rencontre. Ce match qui va lancer la saison 2024-2025 oppose les deux grands clubs du Caire, Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions, et le Zamalek qui a remporté la Coupe de la Confédération. Cette affiche attendue aura lieu le 27 septembre prochain à Riyad. C'est la deuxième fois que le Royaume saoudien abrite cette supercoupe après la signature d'un partenariat entre la CAF et l'Arabie saoudite.
La saison 2024-2025 sera lancée aussi au football féminin Élysée.
Oui, grâce au tirage au sort des éliminatoires de la Ligue des champions féminines de la CAF. Et ce sera ce mercredi au Caire en Égypte. 24 clubs issus de 4 zones de développement sur 6 prendront part à ces éliminatoires. Et c'est la zone UFOA B qui va donner le coup d'envoi de ces qualifications le 10 août prochain avec la participation de 7 clubs.
Merci Élisée. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Cameroun, le préfet du département du Mfundi, dont Yaoundé est la capitale et le chef-lieu, menace d'interdire de ses jours tout ce qui ose critiquer le président Paul Biya. L'arrêté signé à cet effet par l'autorité administrative suscite une vague de réactions et alimente une polémique. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
À Yaoundé, certains Camerounais, à l'instar de Jean-Jacques Meka, un jeune entrepreneur, fustige la décision du préfet du département de Fundi.
En tant que citoyen lambda, je trouve ça un peu très mal placé. On a l'impression que nous sommes dans une mesure dictatoriale qui veut que les gens disent des choses comme l'autorité suprême veut qu'on dise.
Une dizaine d'organisations de la société civile de l'Afrique centrale, réunies au sein du mouvement Action 237, dénoncent la restriction de l'espace civique au Cameroun. Hilaire Kamga est l'un des signataires et porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie.
Il n'y a qu'un seul législateur qui existe dans un état de droit. C'est le pouvoir législatif qui peut être résident en l'espèce composée du Parlement avec les deux chambres, naturellement l'Assemblée nationale. L'autorité administrative n'a aucune compétence pour produire la législation. Il ne peut pas se substituer au code pénal. Monsieur le préfet ou toute autre autorité ou même son patron n'ont donc pas compétence à pouvoir légiférer à la place du législateur.
Le conseil des avocats du barreau de l'ordre du Cameroun, par la voix de son président Mba Eric Mba, a invité le préfet du département de Mfundi à rapporter son arrêté au motif, je cite, qu'il relève d'une époque révolue et est susceptible de donner une image dégradée de notre pays auprès de nos partenaires internationaux. Fin de citation. Emmanuel Mariel Ndjigndang, préfet du département du Mfundi, s'est expliqué sur le bien fondé de sa décision.
Non, la mesure d'interdiction de séjour dans le département du Mfundi n'est qu'une mesure conservatoire. Elle ne vise personne. Comme vous savez, un arrêté est un acte réglementaire. Jusqu'ici, personne n'est interdit de séjour dans le département du Mfundi. Mais nous mettons en garde, l'arrêté est clair. Que toute personne qui va appeler au soulèvement contre les institutions de la République est susceptible d'être interdite de séjour dans notre département. Cette mesure n'est qu'un rappel, une mise en garde, parce que chaque terrain doit respecter son jeu. Donc on ne devrait pas perturber la quiétude de nos populations. Nous sommes garants de l'ordre public dans notre département. Donc nous disons que ceux qui veulent vivre ici doivent respecter aussi la liberté des uns et des autres.
Le syndicat national des journalistes du Cameroun a demandé aux médias du département de Mfundi de ne pas céder à l'intimidation du préfet. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, la capitale Libreville connaît un début d'été hors du commun. La ville vibre au rythme d'une campagne de promotion du savoir-faire local. Les coopératives agricoles et artisans ont ouvert des espaces de vente, des expositions qui donnent à découvrir le textile, l'art culinaire et divers produits endogènes. Le rendez-vous du Made in Gabon enregistre aussi la présence active de transformateurs venus d'autres pays africains. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang.
Mama Dior a longtemps vécu au Gabon avant de rentrer définitivement chez elle au Sénégal. Le temps du Festival international des beaux-arts de Libreville, la sexagénaire tient un stand d'exposition de textiles.
On a les tenues qu'on a, ça vient de Dakar. Il y en a qui viennent de Maroc. Il y en a qui viennent de Atouba. Moi, j'étais là depuis l'âge de 25 ans. Mais sur de ça, j'étais sur rentrer au pays. Mais maintenant, comme les enfants ils sont ici, s'il y a les foires, je viens vendre, je retourne.
Le Festival international des beaux-arts de Libreville est à sa troisième édition. Il se veut un rendez-vous de toutes les cultures. Maurice Ondo est le promoteur du FIBA 240.
Nous devons apprendre à partager des valeurs, puisque nous avons les mêmes souches. Et alors, c'est important pour nous de voir ce que les autres font, prendre ce qui est positif chez eux. Et nous aussi, on donne la possibilité aux autres de venir voir ce que nous faisons. C'est ce qui fait qu'on invite les internationaux. Là, on a, depuis la première édition, le Mali qui nous honore. Et là, on a eu d'autres pays. On a le Congo-Kinshasa qui est représenté actuellement. On a le Cameroun qui est représenté. On a le Sénégal juste derrière nous.
Juste un jet de pierre du festival s'ouvre à peine une foire d'exposition du Made in Gabon. Martin, un jeune entrepreneur en herbe, fait la promotion de son jus de canne à sucre.
Le processus de transformation se fait à base de cette machine. En fait, c'est un broyeur semi-industriel fabriqué par nous-mêmes. C'est une machine qui a la particularité d'écraser de la canne à sucre et de sortir le jus frais déjà, donc prêt à la consommation. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas d'additif, c'est on broie et on sert aux clients.
Déambuler entre les allées des stands permet de découvrir les mets africains et une variété de produits fabriqués localement. Marie Solange est une exposante venue du Cameroun.
C'est un module qui consiste à habiller les accessoires en tissu paille, tels que les sacs, les bijoux, les chaussures, les babouches. Et nous faisons aussi dans la fabrication des sacs, fabrication des boucles, des gourmettes. En fait, ce sont des accessoires de femmes.
Ces foires et festivals constituent un circuit direct entre producteurs et consommateurs. Mais au-delà, c'est un rendez-vous qui repense l'avenir du Gabon et qui agit pour la promotion, la valorisation et la consommation des produits locaux. Ismaël Oubianzé pour VOA Afrique, Libreville.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp, +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
Au Niger, c'est à partir de ce lundi que la décision des autorités militaires de réduire les prix des hydrocarbures à la pompe entre en vigueur. L'essence super et le gasoil sont désormais vendus à près de 7% de moins que leur prix pratiqué jusqu'ici, à la grande satisfaction des consommateurs. Reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
C'est dans le secteur du transport public que cette décision est le plus saluée. Issa Moussa est membre du syndicat des conducteurs de taxi.
Un chauffeur de taxi qui prend 20 litres déjà, tu as une réduction de 800 francs. 800 francs, ça a déjà défait 4 passagers que tu as eu comme avantage. C'est un grand acquis. Et j'ai été très content quand j'ai appris ça. Vraiment, c'est une très grande satisfaction pour nous.
Pour avoir fait de la réduction des prix des hydrocarbures à la pompe son combat de ces dernières années, Mahamadou Gamaké, secrétaire général de l'Union des travailleurs du secteur des transports du Niger, a été à plusieurs fois arrêté.
Ça fait 13 ans, voire même 14 ans, que les Nigériens ont demandé, exigé, revendiqué la réduction du prix du carburant. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'ensemble des citoyens nigériens. C'est vraiment du social. Et nous le souhaitons bon vent. Et nous espérons que Dieu nous donne encore d'autres perspectives, d'autres ressources pour qu'on l'exploite, pour que quand même le Niger soit un pays émergent, le Niger soit un pays dont nous rêvons.
Un des effets attendus de cette décision, c'est la réduction des prix des transports et conséquemment de ceux des produits de première nécessité, des fortes attentes des citoyens.
Les transporteurs doivent diminuer le coût, puisqu'on a diminué le prix du carburant. CNSP a fait une bonne chose. Et on veut essayer qu'il continue d'ici peu de temps encore de diminuer pour les de nous diminuer encore le prix du carburant.
On n'a qu'à essayer encore de diminuer. Parce que maintenant, le pays, maintenant, ça va un peu mal. Les affaires ne marchent pas bien. Mais si on arrive à régler, à faire de l'essence, là, même amener la nourriture pour les peuples, ça va un peu nous arranger.
Je pense que les commerçants aussi, grâce à la réduction du prix à la pompe, peuvent revoir leur prix. Les commerçants qui sont des gros importeurs et tout. Et si on prend au niveau des consommateurs, comme nous, qui ont des petits engins, les motos, les véhicules et tout, je pense que ça serait profitable pour tout le monde, en fait.
Cette décision des militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie intervient à quelques jours du premier anniversaire de leur prise de pouvoir. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Koumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com. Sans oublier nos diverses plateformes digitales, Facebook, YouTube et X, anciennement Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. À très bientôt.